Prions pour débuter. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Nous te rendons grâce pour cet instant que tu nous permets d'avoir dans l'étude de ta parole, dans le partage de tes écritures. Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, d'ouvrir notre entendement à ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. Ouvre notre entendement, Seigneur, afin que nous comprenions quels sont tes plans, quels sont tes projets pour nous. Et que nous saisissions davantage, Seigneur, l'œuvre de ta main toute puissante en notre faveur. Aujourd'hui, Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère qui sont là en direct, mais aussi, Seigneur, tous ceux qui écouteront en différé ou plus tard encore, Seigneur. Que la même onction que tu déverses sur nous, que la même présence de ton esprit, Seigneur, se répande aussi vers tous ceux, Seigneur, qui nous écouteront plus tard. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le psaume 121 qui nous dit « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je relis le verset 7. « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin encore. La thématique de toute cette semaine qu'on a cesse de répéter, la semaine du secours assuré. Une semaine où, à travers ce psaume qui est un des plus célèbres des écrits du roi David, où on rappelle à tout un chacun que le Seigneur veille sur son peuple, qu'il ne s'en lasse point, qu'il ne se relâche point, et qu'il est là à nous apporter la protection dont nous avons besoin en tout temps. Un terme qui est revenu régulièrement cette semaine, qui revient encore aujourd'hui, qui reviendra encore demain, et on a pris le temps de le décortiquer pour en faire sortir un aspect différent pratiquement à chaque jour, c'est le terme « garder ». L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que garder voulait dire veiller. C'est le terme hébreu pour ceux qui prennent des notes, qui ne l'ont pas encore noté. C'est le terme shamar, S-H-A-M-A-R. Je répète, S-H-A-M-A-R. Donc shamar, garder, qui veut dire observer, surveiller, qui veut dire aussi préserver. Ça, c'est la notion qu'on a apprise hier, où le Seigneur nous préserve, nous garde en vie, nous maintient en vie. Et aujourd'hui, la notion qu'on va prendre, c'est garder dans le sens de prendre soin. Alors, la première chose que tu dois savoir ce matin, c'est que Dieu veut, Dieu le fait et Dieu va le faire. Il prend soin de toi. Dieu prend soin de ses brebis, parce qu'il est le bon berger. Dieu prend soin de ses enfants parce qu'il est un juste père et un digne père. Dieu prend soin de sa création parce qu'il est le créateur. Dieu prend soin de chacun d'entre nous parce qu'il nous aime au plus haut point. Donc, rappelle-toi ce matin, et si tu es un peu découragé, si tu es un peu affecté dans ton humeur, dans ta joie, dans tes émotions, rappelle-toi aujourd'hui, Dieu prend soin de toi. Le mensonge régulier que le diable veut nous envoyer et dans lequel on tombe régulièrement, c'est le fait de douter des soins, de douter de la prise en charge de notre Dieu. Très régulièrement, quand les choses commencent à aller un peu moins bien, une des premières pensées que le diable insuffle ou qui remonte à notre réflexion, c'est est-ce que Dieu prend vraiment soin de toi? Est-ce que Dieu t'aime au point où il prend vraiment soin de toi? Est-ce que les soins qui te sont apportés, c'est vraiment les soins de quelqu'un qui t'aime? Il y a des choses qui ne se négocient pas. On ne négocie pas la personnalité même de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Alors, quelles que soient les circonstances que tu passes, quelles que soient les circonstances que tu sois en train de traverser, Dieu est amour. Je suis moi-même passé par des temps difficiles et vous les connaissez, pas la peine de retourner là-dessus, mais vous savez que je suis passé à travers ce que moi j'appelle ma vallée de l'ombre de la mort. Et une des réflexions qui m'est parfois venue à l'oreille, notamment, je me rappelle une conversation que Daphné avait eue avec une collègue de travail qui savait que j'étais pasteur et qui savait que je passais par un moment difficile. Et elle va demander à Daphné, mais ce que Florent traverse actuellement, est-ce que ça ne vient pas affecter sa foi? Et la réponse que Daphné lui a donnée, qui était la même que moi je lui aurais donnée, la foi est utile quand tout va bien, c'est correct, mais la foi a encore plus de sens lorsque les choses vont moins bien. Et lorsque je passais à travers ces moments difficiles au niveau de la santé, bien entendu, je devais ramener à ma pensée comme quoi Dieu est bon et que Dieu prend soin de moi. Le fait qu'on passe par un temps plus difficile qu'un autre ne veut pas dire que Dieu ne veille pas sur nous, ne veut pas dire qu'il ne prend pas soin de nous. Le fait que je ne comprenne pas une situation ne fait pas que cette situation atteste du non-amour de Dieu à mon égard ou du manque de responsabilité de Dieu à mon égard. C'est juste que je ne comprends pas la situation. Parfois, avec le temps, lorsqu'on regarde le chemin parcouru avec du recul, on se rend compte que effectivement la grâce de Dieu était là, et je peux vous assurer que pendant tout ce temps-là, Dieu était là à mes côtés et Dieu me soutenait. Je m'en suis rendu compte davantage avec les années qui ont passé par la suite, ou lorsque je parlais avec d'autres patients, lorsque je parlais avec les médecins, lorsque je parlais avec les infirmières. Et vous savez qu'une fois qu'on est passé par le drame ou par le moment intense, c'est plus avec les années qui passent que les infirmières commencent à dire le fin fond de leur pensée ou que les médecins se délient la langue un peu pour expliquer clairement les choses qui se passaient. Et je me suis rendu compte que j'ai été préservé du Seigneur de quelque chose de bien pire que je ne pouvais me rendre compte à l'époque. Donc il y avait la paix, un, que le Seigneur donnait. Il y a le fait que là où j'en suis rendu aujourd'hui, aux yeux des médecins, et mon médecin principal qui n'est pas un croyant du tout, qui évite toutes les questions concernant la religion et concernant Dieu, lui-même va utiliser le terme à mon égard qui dit c'est un miracle. Donc parfois c'est avec du recul qu'on voit l'intervention de Dieu dans notre vie. Alors ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le chemin à travers lequel tu passes, que tu n'es pas actuellement sous la protection et sous la bénédiction et sous la provision de Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Quand il prend soin de ses enfants, il leur accorde les soins nécessaires et il leur accorde la provision nécessaire. Je peux vous assurer qu'en tout instant de ce parcours médical qui a été le mien, Dieu a été fidèle en tout instant et il m'a donné en tout instant ce dont j'avais besoin. Il m'a donné les personnes dont j'avais besoin pour me soutenir à mes côtés. Il m'a donné la congrégation dont j'avais besoin et la famille spirituelle qui s'est liguée pour prier pour moi et dont j'avais besoin. Il a mis les médecins adéquats à mes côtés. Un jour, je m'arrêterai pour vous dire ce que chacun de ces médecins représentait chez moi et combien ils m'ont béni chacun dans leur rôle particulier. Dieu a pris soin de moi, donc il m'a donné les soins dont j'avais besoin, mais il a pourvu aussi ce qui était nécessaire à mon bien-être. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous, puisqu'on parle du secours, on parle donc d'un danger. On affronte une situation dangereuse, on affronte une situation pénible et Dieu prend soin de nous secourir face à cette situation. Donc le deuxième terme, c'est ou la deuxième thématique, c'est Dieu prend soin de nous face à quoi? Ici, dans ce verset, il va nous dire, il te gardera de tout mal. Le terme mal, c'est le terme ra, R-A apostrophe. Je répète, mal, le terme hébreu ra, R-A apostrophe, qui va parler de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est malin, va nous parler de ce qui est douloureux, de ce qui est pervers et de ce qui est mesquin. Dans la pensée de mal, c'est donc différentes choses qui rentrent là-dedans. Un, il y a tout le mal. Donc, ça peut être tout ce qui est maladie, ça peut être tout ce qui est situation difficile, tout ce qui nous affecte, tout ce qui nous afflige. Ce n'est pas nécessairement constamment quelque chose qui est visé contre nous. Ce n'est pas constamment une attaque directe contre nous. La maladie n'est pas toujours une attaque du diable. La maladie est aussi une défaillance du corps. La maladie est aussi le processus à travers lequel chacun d'entre nous on passe parce que notre corps n'est plus parfait comme il était à la création originelle et parce que nous sommes maintenant affligés par notre mauvaise façon de vivre, notre mauvaise façon de nous alimenter, notre mauvaise hygiène de vie ou quoi que ce soit qui affecte les cellules de notre corps. Donc, quand on parle de mal, on parle de l'ensemble des choses qui nous affligent. Dieu prend soin de cela. Dieu est effectivement le médecin par excellence. Dieu est effectivement le protecteur par excellence. Cette haute retraite, ce refuge certain vers lequel nous pouvons nous tourner. Mais de surcroît à cela, au-delà du mal qui n'est pas nécessairement intentionnel contre nous, Dieu nous protège aussi du mal qui est intentionnel contre nous, qu'on appellerait la méchanceté. Donc oui, il arrive, c'est pas toujours, c'est pas constamment. Il y a des gens qui vivent dans une espèce de pensée d'outrage constant ou de persécution constante. Quand tu te lèves le matin et qu'il n'y a personne devant toi et que tu te trompes de brosse à dents parce que tu en as trois, puis aujourd'hui c'est la bleue, puis demain c'est la rose, puis le lendemain c'est la verte, et que tu te trompes, c'est pas le diable, tu t'es juste trompé. C'est pas une attaque ni du diable, ni des gens autour de toi. Par contre, il arrive par moment, effectivement, que les gens, par jalousie, par mauvais côté de leur propre personnalité, et à l'occasion aussi parce que le diable les ligue contre nous, qu'ils exercent de la méchanceté à notre égard. Et voilà où le Seigneur intervient à ce moment-là pour nous protéger de nos ennemis. David va dire que l'Éternel fait de nos ennemis notre marchepied. Donc, à l'occasion, effectivement, ceux qui se liguent contre nous, ceux qui s'unissent pour nous attaquer, Dieu les gère aussi. La Bible nous dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Et le « moi », ce n'est pas moi, Florent. Moi, c'est Dieu qui parle. « À moi la vengeance et à moi la rétribution ». Ça veut donc dire que Dieu se charge de ta vengeance. Dieu se charge de ta rétribution. Ça veut dire que logiquement, même si on t'a attaqué, non seulement la protection a été assurée par Dieu, mais la vengeance et la justice qui doit être accomplie face à ce qui a été fait à ton égard ne t'appartient pas. Et ça, c'est une notion qui est souvent difficile chez nous. On aimerait partager la vengeance de Dieu. Si Dieu pouvait juste nous accorder une petite part dans ce processus de vengeance, on serait content. Voire même, on peut même être très généreux par rapport à Dieu. On te laisse toute la vengeance, toute la rétribution, mais permet à nos yeux de les voir. La vengeance, si elle appartient à Dieu, il l'opère quand il veut, comme il veut, de la manière qu'il décide de le faire, que cela te soit visible ou que cela te soit caché. Et j'aimerais juste finir cette petite aparté concernant la vengeance. Lorsque toi, tu prends la vengeance entre tes mains, qu'est-ce que tu penses que tu fais? La Bible dit, Dieu dit, la vengeance est à moi. Donc, quand tu prends quelque chose qui appartient à Dieu, tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Veux-tu vraiment voler Dieu? Veux-tu vraiment prendre le risque, toi, de voler Dieu, de sa vengeance, de sa rétribution? Mais voilà ce que l'on fait à chaque fois que nous reprenons entre nos mains la vengeance et la rétribution. Donc Dieu, c'est à lui que ça appartient. Sa protection face à nos ennemis, il nous l'accorde, il nous soutient, il prend soin de nous. Donc face à tout mal, face à la méchanceté, face aux sources de douleur, quelles qu'elles soient ces sources de douleur, que ce soit des douleurs physiques, que ce soit des douleurs au niveau de l'âme, et vous savez que cette semaine, je prie spécifiquement pour la paix dans votre esprit, dans votre âme et le repos dans votre être, parce que je sais qu'effectivement, les sources de tracas et d'inquiétude actuellement sont multiples. Donc le Seigneur prend aussi soin de cela. Certains vont dire, ouais, mais lui se plaint pour rien, puis celle-ci est beaucoup trop sensible. En passant par les moments de douleur qui ont été les miens, qui m'ont amené dans des sphères de mon être que je ne connaissais pas. Je suis quelqu'un qui est habituellement très résilient face à la douleur physique, face à la fatigue émotionnelle, émotive ou autre. Je suis quelqu'un qui suis très résilient. Mais lorsque je suis passé à travers ces moments de maladie, il est arrivé des moments où je n'avais plus aucune force. Je pouvais encore, oui, me mouvoir, prendre soin de moi, m'occuper à cuisiner, puis je pouvais encore, mais il y avait une force, non seulement physique, mais émotionnelle qui me quittait. J'étais comme à bout. Et c'est là où j'ai pu comprendre que la résilience est propre à chacun. Lorsque quelqu'un dit qu'il a mal, ben il a mal, point à la ligne. Lorsque les médecins me demandaient, et encore aujourd'hui, lorsqu'ils me posent la question, mais Florent, la douleur, elle est à combien sur 10? Je ne sais pas ce que veut dire cette douleur, ou je ne sais pas ce que veut dire ce calcul-là, parce que je résiste à la douleur d'une autre façon qu'un autre individu. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à une telle question. Mais ça m'a amené à comprendre que si quelqu'un me dit qu'il a mal, ben il a mal. J'ai pas à questionner si ce mal est bien fondé, s'il est justifié ou non, cette personne a mal. Alors, quelle que soit ta douleur, de ton âme ou de ton corps, Dieu est encore aujourd'hui la seule source pour prendre soin de toi face aux douleurs les plus intimes que tu peux avoir. Même celles dont les gens pourraient se mettre à rire s'ils en entendaient parler. Dieu n'est pas en train de rire. Pour Dieu, ce n'est pas banal. Pour Dieu, ce n'est pas anodin. Dieu veut prendre soin même de cette douleur que tu as à l'intérieur de toi. Donc Dieu prend soin face à tout mal, face à la méchanceté, face à toute source de douleur et face aussi à la perversion. Tout à l'heure, on disait que le mal était souvent interprété, lorsqu'on le mettait dans un terme en français, par quelque chose qui est pervers. Quelque chose qui est pervers, c'est quelque chose qui a été perverti, qui a été aliéné de son sens originel, qui a été aliéné de la raison d'être initiale qui était la sienne. Tout être humain a été perverti. Tout être humain, en raison du péché, nous ne sommes plus dans l'état dans lequel nous avions été créés à l'époque d'Adam et Ève. Le péché nous a contaminés et le péché a aliéné cette nature parfaite qui nous avait été donnée. Et face à cette aliénation, face à cette contamination que nous avons tous reçue, et à travers laquelle nous vivons tous, Dieu prend soin de nous. Voilà pourquoi même lorsqu'on parle de venir à Christ, on parle d'une nouvelle naissance, d'un nouveau départ, un départ qui est exécuté dans cette vie, comme un nouveau et frais départ dans la condition vers laquelle Dieu nous veut nous tendre, dans la condition avec une relation rétablie avec Dieu. Donc, lorsque nous prenons, et j'ai juste un petit truc à régler ici sur l'écran. Merci, désolé. Donc, quand nous venons à Dieu, Nous changeons cette nature pervertie par le péché en une nature renouvelée, restaurée dans la présence et dans la grâce de Dieu. Dernier point important pour nous ce matin, c'est la dernière phrase et je la trouve tellement riche et tellement importante pour nous dans le contexte actuel. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Il gardera ton âme. Gardez encore le terme chamar et le terme âme qu'on a vu à quelques reprises à travers les dernières semaines, le terme nefesh. N-E-P-H-E-S-H, je répète, âme, nefesh, N-E-P-H-E-S-H. Dieu prend soin de ton âme. Qu'est-ce que l'âme? Bibliquement parlant, voici ce qui est incorporé dans la notion que le peuple juif avait du terme nefesh. À la base, nefesh était là où était initiée la vie chez l'être humain. La vie n'était pas considérée comme quelque chose qui venait nécessairement du corps physique qui est le nôtre, mais le corps se mouvait et le corps vivait parce que la vie avait été à la base initiée dans l'âme de l'être humain. Ça, c'était la pensée judaïque qu'on avait à l'époque. Ça veut donc dire que Dieu préserve, Dieu prend soin de ton âme en tant que source de vie. Source de vie. Et vous allez me dire, ouais, mais on peut la vivre heureuse, cette vie, et on peut la vivre malheureuse. L'idée qui vient ici dans source de vie, c'est l'idée qui s'oppose à la mort à l'âme. Dieu veut que ton âme soit vibrante. Dieu veut que ton âme soit épanouie. Dieu veut que ton âme soit au repos. Dieu veut que ton âme soit heureuse, contrairement à avoir la mort à l'âme. Il est trop navrant, trop désolant de voir des chrétiens qui vivent pendant des années, voire des décennies, avec la mort à l'âme. Cela ne glorifie pas Dieu. Quelqu'un qui vit dans un perpétuel et inconsolable deuil, cela ne glorifie pas Dieu. Cela n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut guérir ton âme et Dieu veut ramener ton âme à la vie. On voit cette histoire très claire lorsque Jacob va apprendre que son fils Joseph est toujours vivant. La Bible va nous dire qu'il va enlever ses vêtements de deuil. Ça veut dire que pendant toutes les années où Jacob n'avait pas vu son fils qu'il croyait mort, il avait décidé de vivre un deuil perpétuel. Dieu n'est pas dans le deuil. Dieu n'est pas le Dieu du deuil. Dieu est le Dieu de la consolation. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu de la vie en abondance. Dieu est le Dieu de la joie en abondance. Et si je ne suis pas capable de vivre avec une vie renouvelée, si je ne suis pas capable de vivre avec la paix intense, si je ne suis pas capable de vivre avec la joie effervescente qui vient avec le fait d'avoir la présence de Dieu en moi, ce n'est pas la faute de Dieu. Si je ne veux pas être consolé, Dieu ne peut pas me consoler. Si je ne veux pas la consolation de Dieu, Dieu ne peut pas me consoler. Si je n'accepte pas la consolation de Dieu, Dieu ne peut pas me consoler. Ce matin, tu as peut-être une décision à prendre pour ta propre existence. Dieu est le Dieu de toute consolation. Alors, il n'est pas normal que tu restes après des années encore dans le deuil. Le deuil, oui, c'est encore là un processus propre à chacun. Le deuil est aussi un processus que chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, on a à connaître. Mais si nous sommes enfants de Dieu, non seulement devons-nous connaître le processus de deuil comme tout être normal, mais de surcroît à cela, nous devrions apprendre, connaître, expérimenter la consolation qui vient de Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives dans l'abattement. Alors si ta personnalité, si le trait de caractère qui t'identifie le plus est sombre, et d'être inconsolable, et d'être dans la déprime constamment, tu n'es pas en train de glorifier Dieu. Paul va le dire très clairement à plusieurs reprises dans les écrits aux Philippiens. Réjouissez-vous, je le répète encore, réjouissez-vous toujours. Il n'y a pas de demi-mesure. Réjouissez-vous. La consolation vient de Dieu. Dieu veut guérir ton âme et ramener ton âme à la vie. De surcroît à cela, Dieu préserve de la perversion des passions et des appétits. Lorsqu'on parle du mal, lorsqu'on parle de l'âme, on parle de cet endroit où nous avons des émotions, où nous avons des passions, où nous avons des appétits, où nous avons des envies. Si Dieu restaure ton âme, si Dieu prend soin de ton âme, si Dieu garde ton âme, alors ses passions, ses appétits, ses tendances, ses orientations se doivent aussi d'être restaurées par Dieu selon le plan initial qui était celui de Dieu avant la chute de l'homme. Il est donc important que Dieu puisse avoir accès pour changer les choses de ton âme. Peut-être qu'il y a des passions que tu as que tu sais aujourd'hui qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois laisser Dieu réparer, guérir, restaurer. Tu dois accepter d'abandonner certaines de ces passions qui ne glorifient pas Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons passer par un processus de transformation de l'intelligence, du renouvellement de l'intelligence. Tes pensées doivent être éradiquées, nettoyées, purifiées, sanctifiées. Dernier point. Si Dieu prend soin de ton âme, l'âme est le centre des émotions. Cette semaine, on prie pour ceux qui sont effectivement, qui passent par ce moment de confinement de façon difficile, ceux qui passent par ce moment de restriction de façon douloureuse. Et on comprend, ce n'est pas une situation qui est aisée, ce n'est pas une situation qui est facile. Mais même là, Dieu prend soin de tes émotions. Dieu veut amener le calme dans tes émotions. Dieu veut amener la paix dans tes pensées. Dieu veut amener le réconfort au plus profond de ton être. Dieu veut t'amener au repos. Est-ce que cette semaine, tu peux permettre à Dieu effectivement d'étendre sa main? Que tu ne sois plus là en disant, Seigneur, non, je veux continuer à souffrir parce que si je ne souffre pas, je vais oublier. Laisse Dieu en charge de ton âme. Laisse Dieu en charge de ton esprit. Laisse Dieu en charge de ton cœur et qu'il puisse amener la paix, le calme, le repos, la joie, la vie dans cette âme. Tu ne devrais pas vivre ton existence avec la mort à l'âme. Ton âme devrait être vivante. Ton âme devrait être vibrante. Ton âme devrait être contagieuse de joie, de paix, de félicité, parce que celui qui habite en toi, c'est le prince de paix. Alors, permets-moi de prier pour toi ce matin. Seigneur, c'est vers toi, effectivement, que nous tournons les regards. Parce que tu es notre source de vie. Tu es notre source de repos. Tu es notre source de paix. Ce matin, Seigneur, j'appelle l'âme de ma sœur au repos. J'appelle l'âme de mon frère au repos. Je prie, Seigneur, que ma sœur et mon frère ne posent pas de blocage à l'œuvre que tu veux accomplir en eux. Certains, Seigneur, vivent peut-être avec un deuil permanent qu'ils veulent inconsolable jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, si tu es effectivement le maître de leur vie, si tu es effectivement celui qui règne sur leur existence, la tristesse, l'amorosité ne devraient pas subsister. Elles devraient laisser la place à la restauration, à la paix, à la consolation. Alors Seigneur, je prie que mon frère et ma sœur ouvrent la porte à ta paix. Ta paix que tu donnes non seulement en abondance, mais ta paix qui dépasse même l'entendement. Je prie, Seigneur, que ma sœur et mon frère puissent accepter ta consolation. Je prie, Seigneur, que ma sœur et mon frère puissent réexpérimenter la joie qui vient avec ton salut. Seigneur, étends ta main là où ma sœur est ce matin. Touche-la. Seigneur, là où mon frère est ce matin, touche-le. Et qu'à travers leur louange, qu'à travers leur gratitude et reconnaissance, que ce soit, Seigneur, un parfum de douce odeur qui monte jusqu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour nous tous ce matin. Juste petit rappel, donc demain matin, dernière journée des bénédictions matinales pour cette semaine, journée de jeûne et de prière aussi pour tous ceux qui le veulent et qui le peuvent. On se retrouve pour conclure le jeûne vers 19h, donc bénédiction matinale à 8h30, 19h, temps de prière et d'intercession. Donc ceux qui peuvent jeûner, on vous invite à le faire. Ceux qui en ont le désir et les capacités, on vous invite à le faire. Ce n'est qu'une petite journée en se privant de nourriture pour passer du temps dans la présence de Dieu. Mais à cela, personne n'est tenu. C'est libre à chacun d'entre vous, selon vos capacités et votre volonté. De surcroît à cela, samedi, un rappel important, on aura deux choses pour samedi. Donc, il y a le ménage à l'église pour tous ceux qui veulent venir aider. Vous êtes les très, très, très bienvenus. Ça sera très apprécié. Il y aura l'équipe qui sera là-bas pour vous accueillir et vous attribuer une tâche selon vos capacités, votre expérience, vos habiletés. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, de surcroît à cela, donc samedi soir, un temps de prière pour contrer Halloween. C'est ce qu'on fait depuis déjà plus de 10 ans, probablement une quinzaine d'années qu'on fait cela. Donc, soyons là samedi soir devant notre écran pour dans la prière contrer les œuvres de l'ennemi et on termine par la Sainte Cène. Donc, on vous demande déjà de préparer vos cœurs, de pardonner, de vous faire pardonner, de régler les choses avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Et par la suite, donc, on prend la Sainte Cène, préparez votre pain et votre coupe pour qu'on puisse ensemble nous rappeler de ce que Christ a fait à la croix pour nous apporter le salut et la restauration dans nos vies. Donc, c'est notre rendez-vous pour les deux prochains jours. On espère que vous avez été bénis ce matin. On vous souhaite une très, très bonne journée. J'appelle la paix dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Et que le Dieu de toute consolation vous soutienne et vous visite aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain matin, 8h30, pour la prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à tous. Au revoir.